Bonjour et bienvenue au coin de la table, avec moi Pascal, Guylaine.
Bonjour.
Et Aurélien.
Bonjour.
Dans l'épisode précédent, on vous avait parlé de l'improvisation, et dans cet épisode, on va encore parler d'improvisation, mais cette fois, pas traditionnelle, on va sortir des sentiers battus.
On va aller s'aventurer dans les hautes herbes pour voir ce que ça donne, une improvisation un peu plus particulière. Je voulais commencer à vous parler des jeux sans MJ. Car oui, on a tendance à penser que le jeu de rôle, c'est des joueurs et un MJ. Mais non, il y a aussi de plus en plus de jeux qui existent sans meneur, où au final, ce sont les joueurs qui vont tous ensemble collaborer à la création de l'histoire, où généralement, il n'y a pas ou peu de scénarios. Alors, on a plusieurs exemples possibles. L'un des premiers à avoir eu, on va dire, le soutien médiatique, etc., avoir été assez médiatisé, c'était Fiasco, de Jason Morningstar. Où les joueurs vont ensemble faire une sorte de scénario de film un peu aux frères Cohen, c'est ça, dans la fibre des frères Cohen, avec des relations entre les personnages, des éléments qui vont devoir arriver dans l'intrigue. On peut aussi parler de Prosopopée pour l'édition indépendante française avec Frédéric Sintès, qui est un jeu beaucoup plus onirique avec une couche un peu Miyazaki, des couleurs comme ça, assez douces. Ou encore du Polaris de Ben Lehman, qui avait fait l'objet d'un financement participatif pour son édition française.
Alors Yélène, comment fonctionnent ces jeux sans MJ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour savoir comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Alors évidemment, il y a des règles et des mécaniques de base qui vont définir une dynamique de l'histoire, donc qui vont définir un contexte de base, les personnages, les motivations de ces personnages. Et ensuite, il y a très souvent une des règles de base, c'est ce qui est dit, on ne peut pas revenir dessus. C'est-à-dire que si moi je dis ton pull est violet, eh ben voilà, le pull de ton personnage, il est violet, tu pourras pas me contredire. Tu devras accepter et construire là-dessus. Alors pour un pull, c'est pas très important, mais si je dis par exemple que ton père est unijambiste, et ben voilà, c'est comme ça, ton père est unijambiste, et si le personnage arrive à un moment, et ben, il va falloir gérer comme ça.
Et moi ça me rappelle beaucoup tout ce qui est notion d'improvisation théâtrale, et particulièrement la notion du clown, qui est une catégorie particulière du théâtre d'impro. Hein. Le clown, c'est pas juste un bonhomme avec un nez rouge qui va faire des blagues et lancer des tartes à la crème, c'est un personnage qui va accepter tout ce qui va lui arriver, qui va être bienveillant et positif, et qui va accepter les contraintes, les différents événements, et qui va toujours être dans le oui. Un clown, ça va jamais dire non. Donc quoi qu'il va se passer, il va falloir qu'il compose avec ça et qu'il recrée son univers et qu'il adapte à ce qui va se passer et d'une façon justement parfois assez burlesque.
Oui, bah, je pense que c'est exactement sur ces principes-là. Hein. D'ailleurs, souvent, c'est noté noir sur blanc que ce qui est dit et qu'on ne peut pas revenir dessus. Dans le prosopopée, en tout cas de Frédéric Sintès, c'est comme ça. Il y a une règle qui dit, si quelqu'un dit quelque chose, vous n'avez pas le droit de revenir dessus.
Il y a beaucoup de MJ, de joueurs qui ont tendance à l'oublier, donc du coup, c'est souvent ce qui donne des digressions, commence à déconner, et là, t'arrives devant le roi, qu'est-ce que tu fais? Je baisse mon slip, tu vois, ce genre de conneries. Ouais, bon, en fait, c'est beaucoup plus marrant si le MJ prend le truc en compte, et fait « Ah, t'es parti au cachot, quoi !»
Moi, j'ai fait ça pour une partie récemment, où mes joueurs étaient un peu dans une sorte d'euphorie, parce que c'était du Wasberg, donc grosso modo... Il y a un côté assez humoristique, assez grotesque, et en tout cas dans la façon dont on le jouait. Et du coup, j'avais un de mes personnages, une de mes joueuses, qui concrètement des fois faisait n'importe quoi juste parce que ça la faisait marrer, mais en méta. Et moi, je faisais exprès de l'inclure, c'est dit, voilà, c'est comme ça.
T'assumes, c'est tout.
Alors c'est un peu la notion de, on a tous en tête cette petite blague du joueur un peu facétieux qui va dire, donc à son MJ, si un MJ, là c'est pas le cas, qui va dire, là je suis un chevalier avec une armure à plaques, je vais nager dans l'eau parce que je suis très très fort. Du coup là le MJ est un peu perdu et va accepter ou ne va pas accepter cette proposition du joueur. Alors, qu'est-ce qui permet justement de savoir dans les jeux sans MJ si on accepte à coup sûr ou alors si on fait des exceptions sur des éléments de jeu, quoi? Quelle est la décision?
Ça, je pense que concrètement, ça va dépendre de ta tablée et ça va dépendre un peu de l'ambiance de la partie. Moi, je prends l'exemple de mes parties là, de Wasberg dont je parlais. Bon, c'est un jeu avec MJ, mais concrètement, il y avait vraiment un côté très humoristique où on se fendait la poire, pas hyper sérieux et compagnie. Mais il y a pas mal de jeux sans MJ qui recherchent quelque chose de plus intimiste, qui vont avoir une certaine intensité dramatique et émotionnelle. Et concrètement, dans des jeux comme ça, tu vas pas t'amuser. Enfin, c'est peu probable que tu ailles faire ta blague du chevalier en plaque, quoi.
Après aussi, t'as le côté, par exemple, dans Fiasco, t'es un peu soumis au vote du peuple quelque part. tu prends une décision, tu dis ah, mon personnage il fait ça, c'est les autres joueurs disent peuvent décider de voter que bah non, ça se passe pas très très bien pour lui.
Oui, donc tu peux te prendre, en fait, si tu fais une proposition, quand bien même personne n'a le droit de revenir dessus, tu peux très bien te prendre un retour de
Comme en plus, comme il n'y a pas de MJ, il n'y a pas non plus d'opposition forcément notable. Hein, dans Fiasco, en plus, c'est un peu chacun pour sa gueule, pour reprendre cet exemple-là.
Concrètement, oui.
Et du coup, bah, si tu veux faire... ouais, bah, mon personnage, il a une M16 cachée dans sa boîte à gants. Les joueurs disent, bah non. Ou, enfin, ils vont peut-être pas forcément le bloquer, mais il va s'en prendre une dans la tronche, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, les forces s'équilibrent assez naturellement. S'il y a un joueur qui fait n'importe quoi, qui essaye de sortir un peu d'un rythme collectif, en disant, voilà, typiquement, ben voilà, moi je me retourne et j'ouvre le placard et il y a un M16 dedans, ben, peut-être que les autres vont dire, ben, à ce moment-là, tu te rends compte qu'en fait, ton M16, il est comme ci, comme ça, il marche pas, il n'y a pas de cartouche. Ouais. Enfin, bon, tu peux assez facilement désamorcer tout ça. Et il y a aussi une autre technique, on va dire, pour garantir de rester fidèle à la fiction, etc. C'est tout ce qui est un peu phrase rituelle. Il y a pas mal de jeux comme ça pour poser l'ambiance, vu qu'il n'y a pas un MJ qui va commencer à faire un pitch pour poser son ambiance, pour raconter aux joueurs, alors vous êtes dans une forêt autour d'un campement, tu vas avoir des phrases à prononcer globalement, tu vas avoir, pour votre introduction de partie, vous devez allumer une bougie au centre de la table et dire, c'est ainsi qu'a disparu la civilisation, machin truc, histoire de lancer une ambiance. Et donc Polaris de Ben Lehman notamment fonctionne comme ça. Avec ces sortes de phrases rituelles, qui ont vraiment un côté très formule magique, hein, concrètement. C'est vraiment une parole qui va avoir une efficace et qui va tout de suite forcer un cadre, un rythme aux autres joueurs.
C'est une notion en game design, qui est la notion de cercle magique ou alors de bulle ludique.
Oui.
Donc si on est plutôt jeu vidéo ou jeu de société, c'est en fait créer une sorte de contrat entre soi, le jeu, les joueurs, les différents participants. Et c'est vrai que quand on rentre dans ce cercle et dans cette bulle, on accepte ce qui va s'y passer, oui, tant que ça reste du domaine du cohérent. Hein,
suspension de la crédibilité.
Effectivement, c'est très utilisé dans le jeu vidéo aussi. Mini digression par rapport au jeu de rôle, mais oui, nous allons parler un peu jeu vidéo. La suspension de la crédibilité en jeu vidéo, c'est essayer de proposer un univers qui est cohérent, qui n'est pas réaliste, qui n'est pas forcément logique, mais en tout cas qui est cohérent. Si on prend l'exemple de Mario, bah Mario c'est comme un plombier italien qui mange des champignons et des fleurs, qui lance des boules de feu et il doit aller tuer des tortues pour aller sauver une princesse. C'est
absurde. Je vois pas le problème.
Voilà, aucun problème. C'est assez absurde, par contre c'est accepté comme tel, le joueur accepte le contrat et sa crédulité du monde réel est suspendue. Voilà, par contre si jamais dans Mario soudain il y a un ennemi qui commence à sortir une Kalachnikov et à tirer sur Mario, bah ça va pas du tout passer parce que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans l'univers du jeu qui a été conçu et qui a été accepté par le joueur.
C'est en décalage.
Exactement.
Du coup, je pense que pour justement toute cette catégorie de jeux sans MJ, etc., toute improvisation est acceptable à partir du moment où elle obéit aux règles de ce contrat social de base, de cet univers qui est en train d'être construit par tout le monde. Et je vois bien, j'ai fini il y a peu de temps une campagne d'Itrasby, une longue campagne qui a été complètement épique. C'est un jeu avec MJ pour le coup, c'est un jeu, je sais plus de quel pays il vient, peut-être Norvège, où grosso modo ça se passe dans les années 20, enfin dans un cadre type années 20, mais c'est pas nos années 20 à nous, c'est un jeu surréaliste, qui est basé sur l'idée du surréalisme, de pouvoir faire popper des choses absurdes, et du coup au début on a quand même eu un peu peur que ce soit la foire ou n'importe quoi. C'est un jeu avec MJ où 1, 2, 3. C'est un jeu avec MJ, mais où les joueurs peuvent apporter du contenu, et où ce que les joueurs disent va avoir lieu. Du coup, ça mêle les deux un petit peu. Le MJ sert surtout, on va dire, d'arbitre, et il sert surtout à incarner les PNJ, concrètement. Et du coup, dans ce jeu-là, tout ce que les joueurs vont apporter est acceptable. On est dans un jeu qui, en plus, est surréaliste, donc il va accepter l'absurde, et on avait vraiment peur que ça devienne très rapidement n'importe quoi, que ce soit la course à l'absurde. Et au final, ça s'autorégule très rapidement de voir que, bah, même dans l'absurde, on a trouvé notre propre logique et notre propre cohérence et nos propres limites. Et il y a des moments où on sentait qu'on dérivait trop. Ben, on a assez vite recadré vers quelque chose de plus malléable et qui nous allait à tous, quoi.
En fait, c'est marrant, ça me fait beaucoup penser toutes ces notions à la notion de jam musical, hein, de buff, quand on joue ensemble, qu'on se dit, bah tiens, on va jouer ensemble, donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui part sur un rythme jazz pendant qu'il y a quelqu'un qui est sur une guitare rock, par exemple? Parce qu'il y a une acceptation d'adaptation avec ce que les uns et les autres font, et une sorte d'autorégulation en allant très loin, mais dans un cadre précis.
Parce qu'au final, mine de rien, l'objectif, ça reste de créer une fiction ensemble. Et s'il y en a un qui part tout seul dans son coin, dans une direction différente, bah, il va péter la partie de tout le monde. Alors après, il y a des fois où ça marche pas. Il y a des fois, tu vas faire un jeu sans MJ, on va essayer de créer tous ensemble la fiction, sauf qu'en effet, il n'y a pas cette espèce d'arbitre qui va être là pour régler, pour ajuster en permanence la balance fictionnelle. Même si je crois que balance fictionnelle, ça veut dire autre chose dans d'autres contextes, donc peut-être pas utiliser ce terme-là. Bref, vous m'avez compris. Ajuster en permanence la balance, c'est au joueur de s'auto-réguler. Et il y a des fois où ça marche pas. Il y a des fois où c'est juste, non, la mayonnaise, elle prend pas. Ça tombe à plat.
Voilà. Ça, c'est un truc commun que tu retrouves déjà même dans le jeu de rôle où. Moi, j'ai déjà eu une engueulade sur un jeu de zombies avec un mec parce que nous, on était en mode vise la tête. Et puis, il comprenait pas, mais pourquoi tu vises la tête? À quoi ça sert? Enfin, c'est rien de spécial parce que pour lui, le zombie, il voyait plus le zombie mystique, machin, que le zombie de film d'horreur. Et donc, du coup, pour lui, ça avait pas de logique de détruire la tête, le cerveau, quoi. Et dans ce cas-là, à partir du moment-là où, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si tous les joueurs n'acceptent pas le contrat, s'ils n'ont pas non plus la même base intellectuel, culturel, etc., ça peut effectivement se barrer dans tous les sens.
Ben surtout quand t'as pas une figure d'autorité au début, en l'occurrence le MJ, pour dire voilà notre univers, voilà comment sont les zombies dans notre univers. En l'absence d'une figure comme ça, c'est vrai que c'est encore plus difficile de trouver... Enfin, déjà, quand il y a le MJ, c'est pas forcément évident, mais encore plus quand il n'est pas là. Donc c'est vrai que l'improvisation doit être un peu autogérée, quoi, dans ces cadres-là.
Alors pour changer un petit peu de cette... on parle de cette notion de finalement de contrainte. On va se poser des contraintes pour faire émerger la créativité. On peut aussi parler un peu de jeux de société pour changer. Ça y est, c'est le moment. Et donc il y a des jeux de société, narratifs. Et oui, ça existe aussi.
Oh, il sort les gros mots quoi.
Narratif et ludique en même temps, c'est incroyable. Donc par exemple, on va citer. La table commence à chauffer là. Donc on va parler du jeu. Il était une fois. Hein, c'est un peu l'archétype du jeu narratif. Donc pour présenter le jeu, un joueur va commencer en racontant une histoire. Dire il était une fois. Bon, peu importe, un poulet, un canif. Bon. Et raconter une histoire par rapport à des cartes de contraintes qu'il va avoir, qui vont être des cartes type objet, situation, événement, etc. Et il va devoir poser ses cartes pour raconter une histoire de façon cohérente et pouvoir se débarrasser de ses cartes et créer une fin à l'histoire. Et les autres joueurs peuvent évidemment participer à cette histoire en l'interrompant à tout moment, en posant une carte supplémentaire. Exemple, il était une fois un lapin qui parcourait la forêt, et l'autre joueur va sortir « Non, parce qu'entre-temps, il y a un chasseur qui est arrivé et qui... » etc. Et... Ça, c'est un exemple un peu archétypal, ainsi que le jeu Oui, Seigneur des Ténèbres, qui recoupe un peu ça, des contraintes, du cadre qui permet de faire émerger la créativité, raconter une histoire autrement qu'en disant juste « Hey, raconte une histoire !» Il y a aussi les Story Cubes, qui sont des petits dés avec des icônes.
C'est récent, ça?
Non, ça commence à faire quelques années.
Déjà
ouais. 5, 6 ans peut-être,
Ah ouais, je les ai vus très récemment pour la première fois en fait. Du coup,
il y en a de plus en plus qui sortent et c'est un succès qui est toujours croissant. Mais moi j'ai le souvenir de les avoir utilisés il y a au moins 3 ans. Donc à voir.
Ah oui.
Et donc l'idée c'est des cubes, enfin des dés quoi, avec des icônes. On lance la poignée de dés et on doit improviser une histoire basée sur les pictogrammes qui nous ont été présentés par les dés.
Ouais. Mais alors ces dés là, c'est un jeu en soi ou c'est un outil à utiliser dans un autre contexte?
Bah c'est un outil, c'est un outil de stimulation de la créativité et de la narration.
Voilà. Justement dans le style des Story Cubes, voilà, pour revenir un petit peu aussi sur le nouveau jeu de rôle, il y a une mini revue qui coûte absolument rien, téléchargeable en PDF, hein, qui s'appelle RND. Et qui en fait consiste, c'est des aventures pour jeu de rôle, complètement clé en main. Et où il n'y a absolument aucun texte. Tout est juste décrit par des pictogrammes, etc. Comme les Story Cubes. Donc, par exemple, dedans, tu vas avoir une page avec un plan de donjon. Et dans chaque pièce, t'as un pictogramme. Chaque pièce est reliée à 3 pictogrammes. Et c'est à toi d'interpréter ce qu'ils veulent dire et ce que tu vas mettre dedans.
J'ai bien vu que tu étais en train de repartir sur le jeu de rôle discrètement là. Là, on t'a grillé. Hein. Mais c'est marrant parce que
rien,
du coup, tu n'as vraiment absolument aucun caractère écrit en fait.
Non, t'as un exemple au début pour montrer comment ce que ça peut donner, mais si tu veux, en soi, l'aventure, non, t'as une timeline, t'as que des illustrations, tu sais pas à quoi elles correspondent, c'est au MJ ou aux joueurs s'ils veulent faire un donjon en coop d'interpréter ce qu'ils veulent quoi.
Mais du coup, pour le coup, est-ce que ça a un intérêt de l'utiliser avant la partie ? À part toi, te taper ton trip pictographique dans ton lit.
Ça peut être avoir un intérêt parce que par exemple, un maître de jeu peut utiliser la même revue plusieurs fois. Alors après, ça marche pas forcément parce qu'évidemment, chaque personne a sa propre interprétation des pictogrammes. Mais tu peux refaire, réutiliser le même numéro de revue ou le même plan avec les pictogrammes et à chaque fois trouver un truc différent et donc renouveler l'aventure et faire ce genre de choses.
D'accord.
Donc préparer plusieurs donjons, plusieurs aventures différentes avec la même base.
Oui, donc là, mais après, c'est vrai que pour tous ces cas-là, pour les Story Cubes ou pour R&D, on est plus dans l'interprétation que dans l'improvisation au final.
Il y a un peu de ça, ça dépend.
Ça me fait penser, pour repasser discrètement sur le jeu de société et le lien jeu de société-jeu de rôle, sur tout ce qui est cadre de contraintes, Guylaine, tu voulais nous parler un peu de Time Stories.
Oui, en effet, j'ai pu le tester il y a pas très très longtemps. Alors bon, par ailleurs, je vous le recommande, c'est une expérience assez sympa, même si c'est quand même très cher par rapport au temps de jeu qu'offre la boîte de base. Puisque concrètement, dans la boîte, il y a un scénario. Un scénario, c'est-à-dire, c'est un deck de cartes qui va contenir des lieux, qui va contenir des objets, des personnages, qui vont vous aider à résoudre une enquête en tant qu'agent temporel. Vous êtes des agents de l'agence... Enfin, grosso modo, vous êtes un peu les agents Doctor Who, quoi. Et vous devez résoudre une enquête dans la boîte de base, ça se passe dans les années 20, dans un asile. Et au fur et à mesure, vous allez explorer des lieux, etc. Donc c'est une expérience de jeu intéressante, sauf que du coup, le scénario n'est jouable qu'une fois. Bon, concrètement, vous pouvez le prêter à des copains si vous voulez, mais vous pouvez pas refaire le scénario, quoi. Et nous, on l'a joué en 3 heures.
Ouais. Vous l'avez terminé.
Ouais.
Parce que en fait, ce que j'ai souvent entendu, c'était que le problème, c'était qu'il est finissable une fois. Mais que beaucoup de gens l'ont foiré la première fois.
Alors en fait, t'as des runs. Tes runs, c'est des essais pour résoudre l'enquête. Mmh. Donc nous, on a fait 3 runs en 3 heures.
D'accord.
Donc un peu, ça faisait 1 heure le run, grosso modo, quoi.
Donc il y a d'autres scénarios qui peuvent être utilisés par la suite,
oui.
qui sont créés. Et comment
Mais
est-ce
que du coup, faut acheter.
Fait qu'il faut acheter. Mais comment est-ce qu'on peut improviser en fait? Où est la composante impro?
Grosso modo, donc on a chacun un personnage, un peu comme en jeu de rôle. On a une fiche de personnage, voilà, avec des caractéristiques, un mini background, c'est-à-dire une petite phrase qui va te caractériser pour t'aider un peu dans le roleplay. Et il est écrit noir sur blanc dans les règles que si par exemple vous prenez une carte indice avec le texte que vous donne, enfin avec un texte qui vous décrit un objet, il est écrit noir sur blanc que vous ne devez pas juste lire la carte et dire. Vous trouvez une clé qui est rouillée à l'extrémité, hein, mais vous devez mettre en scène ça. Donc vous devez vraiment faire du roleplay et dire « Bon écoutez, je viens de trouver là derrière un buisson, il y avait cette vieille clé rouillée, vous pensez qu'elle ouvre quoi ?» Donc dans cette mesure-là, on doit faire du roleplay dans un jeu de société. Nous, en tant que rôliste, ça n'a pas été facile. Parce que justement, on ne retrouvait pas les sensations du jeu de rôle. Donc on a eu du mal. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont très bien réussi. Et il y a des gens qui ont mis très longtemps à faire le scénario. Et peut-être que justement, c'est des gens qui ont fait beaucoup de roleplay, qui étaient à fond dans l'improvisation, etc. Nous, on a assez vite été plutôt en mode jeu de plateau. Quoi.
Donc ce qui est intéressant, c'est que là, le jeu encourage vraiment le joueur à incarner un rôle.
Oui.
Là où quelque part, dans pas mal de jeux de société, on va le faire d'une façon plus ou moins implicite. Même quand on joue à des jeux comme Pandémie. Pandémie tout court, j'en parlerai de Legacy après. Pandémie tout court, on va incarner un médecin, un chercheur, un scientifique, et parfois on voit des phénomènes de gens qui s'attribuent un peu le rôle du médecin. Moi je suis médecin, du coup je vais aller sauver les populations en enlevant des cubes. Donc on peut avoir une sorte de projection. Et, et justement, ça me fait penser à Pandémie Legacy. Donc la différence entre. Donc c'est. Le jeu est comme Pandémie, on résout une pandémie mondiale, il faut aller redécouvrir des remèdes sur une maladie. Sauf que Legacy, c'est une campagne de jeux de société qui se joue sur un certain nombre de parties, de 12 à 24 en l'occurrence, par découpé en mois, et où le jeu va évoluer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va avoir des stickers qui vont être placés sur des villes. Quand on a une éclosion de maladie dans une ville, on va placer un sticker pour dire qu'elle est instable ou en émeute ou en ruine, enfin des trucs pas hyper sympas. Quand on peut déchirer des cartes, alors c'est un peu le sacrilège pour le joueur de jeu de société, mais quand un personnage meurt, parce que c'est possible, on déchire sa carte, on peut plus l'utiliser.
Du coup, aucune rejouabilité.
Alors théoriquement, aucune rejouabilité si on respecte
le jeu. Genre tu peux pas prêter le jeu.
Non, 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 clairement pas. Alors on peut choisir de mettre les cartes de côté au lieu de les déchirer, mais c'est pas ce qui est attendu par le jeu. Et ensuite, il faut pouvoir tout retrier parce qu'on dévoile des choses au fur et à mesure du jeu. Donc le jeu n'est pas conçu pour être jouable du tout. Hein. C'est un peu son pitch.
C'est intéressant.
Tout à fait. Donc là, ça implique pas mal de débats sur la notion de jeu de société rejouable, non rejouable, qui n'est pas le sujet du podcast.
Pardon.
Mais qui est très intéressant. Mais ce qui m'intéresse pas mal au niveau de l'improvisation, c'est la projection particulière qu'on va pouvoir avoir par rapport à l'univers du jeu. Nous, par exemple, nos maladies, on les a appelées, on leur a donné des petits noms, le jeu nous encourage à le faire. Il y a une maladie qu'on a appelée Sauron, par exemple, une maladie qu'on a appelée les paradis fiscaux. On se dit que pour nous, c'est une maladie grave, qu'on a mis à peu près en Amérique latine, pour avoir l'Amérique centrale. Et donc, on avait un jeu par rapport à cette maladie des paradis fiscaux qui allait subir peut-être différentes évolutions ou des cas. Donc, ça nous créait un cadre d'improvisation narrative qui sortait complètement du cadre du jeu mécanique et systémique, mais où on allait se faire des blagues entre nous et se raconter nos propres histoires, mais par rapport à une projection qu'on a pu faire de ce jeu, quoi, que personnaliser.
Mais du coup, ça, c'est clairement encouragé par les règles ou c'est juste vous, un comportement émergent au final
C'est totalement émergent. C'est pas du tout encouragé par les règles, mais d'une part, peut-être un peu, puisqu'on demande le jeu nous demande de nommer les personnages et les maladies. Mais du coup, le jeu encourage l'émergence, mais par contre, n'encourage pas l'impro en tant que tel.
Et alors concrètement, et c'est une question que je te pose à toi pour Pandemic Legacy, mais que je pose aussi à moi pour le cas de Time Stories, est-ce que cette composante d'interprétation, de world building au final, est-ce que ça enrichit l'expérience de jeu ou pas ?
Alors de mon côté, ça enrichit vraiment beaucoup l'expérience de jeu, parce qu'on se crée notre propre campagne de jeu de société avec les amis avec qui je joue, qui sont des amis fixes, et... ça nous permet vraiment de se le raconter après, de se dire bah là il y a les paradis fiscaux qu'on fait ça machin. Donc on se raconte des petites histoires mais qui sont directement corrélées au nom des personnages et au nom des maladies, ouais.
Parce que nous, dans le cas de Time Stories, je suis pas persuadée que ça ait enrichi. Et au final, je vois bien qu'on n'a pas réussi à le tenir sur la longueur. Sur toute la partie, on n'a pas réussi à tenir nos rôles. Et on est vite arrivé dans un côté très optimisateur. Non, mais attends, moi je vais là parce que du coup, je peux faire ça. Puis en plus, j'ai des points, machin truc. Enfin, voilà, on était complètement dans l'optimisation méta. Mais peut-être aussi parce que justement, c'était vraiment un groupe de rôlistes. Du coup, peut-être que si on veut faire du jeu de rôle, on a le jeu de rôle. Donc là, c'est peut-être pas ce qu'on cherchait. Ou peut-être que c'était trop entre deux chaises comme média pour nous.
Pas assez précis, quoi.
Oui, pas assez cadré, en tout cas, pour du roleplay. Moi, je me sentais soit trop bridée, enfin voilà, trop mi-fig, mi-raisin. Il y avait un pied dans le plat, mais pas le deuxième. C'est-à-dire que, ouais, on te file une fiche de perso, donc tu peux te dire, ouais, allez, je vais faire de l'impro. Mais en même temps, les mécaniques de jeu, tu sais, le fait, par exemple, que tu refais le même run, donc tu refais la même histoire...
Tu veux pas refaire la même dialogue et tout
voilà.
Ça parce que c'est long et redondant et on s'en fout.
Voilà.
Comme les livres dont on est les héros, dont on va se dire tiens, je vais commencer effectivement au paragraphe X parce que je sais qu'avant il y a un pattern qui va forcément m'y mener parce que je le connais déjà, quoi.
Et puis tu vas peut-être pas relire chaque fois les paragraphes.
Bah ouais.
Alors sinon, pour revenir un peu à des sujets plus rôlistes, moi j'avais une petite... Je suis désolée Aurélien, mais il faut le faire. On est au coin de la table, on n'est pas ailleurs, ok.
Ok, l'argument est choc.
Il y a très longtemps, j'ai fait une partie de jeu de rôle et il y a très longtemps, j'ai fait une partie d'un jeu de rôle maison, une tambouille qu'avait écrite un ami pour adapter un jeu vidéo dans un univers un peu Halloween, étrange Noël de Monsieur Jack, etc. Et l'un des personnages était un zombie. Et on était bien emmerdés parce que ce zombie avait, comme tout zombie qui se respecte, une intelligence absolument catastrophique et on savait pas trop comment faire pour refléter ça. Et donc c'était moi la MJ et j'avais imposé une contrainte au joueur. Je lui avais dit ok, t'as pas le droit d'utiliser des mots de plus de 2 syllabes ou 3 syllabes, je sais plus exactement, et que ce soit dans le roleplay comme dans tout ce qui est méta, que ce soit, enfin peu importe, que ce soit le joueur ou le personnage qui parle, il avait pas le droit d'utiliser des mots de plus de X syllabes. Et c'était une contrainte méta complètement que j'ai rajoutée et ça a vraiment créé stimulé l'improvisation et stimulé le roleplay. Et c'était vraiment une très bonne idée. Je cherche toujours d'ailleurs un contexte dans lequel je pourrais réutiliser ça. Je cherche des personnages bêtes pour pouvoir faire ça.
Si vous aimez jouer des personnages stupides, contactez Guylaine.
Laissez-nous des commentaires.
C'est ça. Moi, ça me fait penser à quelque chose. J'avais écrit une murder party dans l'univers de Alerte Rouge, que j'avais joué plusieurs fois. Et alors, balancer un petit spoiler.
Non.
C'est que un des personnages, en fait, est un cyborg. Ah, waouh, choc. Personne ne le sait, à part lui, évidemment. Personne ne se doute qu'il peut y avoir un cyborg dans le jeu. C'est partant de son doute vraiment, il y a une justification scénaristique, hein, mais bien sûr. Mais l'idée, c'est que ce personnage, du coup, c'est marqué sur sa fiche, vous êtes un cyborg, vous avez besoin de vous recharger en électricité pour pouvoir utiliser votre simulation de langage cohérente et pouvoir faire des mots et des phrases dignes de ce nom. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est dans un centre de recherche secret dont l'énergie a été mystérieusement coupée. Donc le cyborg va commencer à perdre de l'énergie petit à petit, à se mettre en mode sauvegarde, enfin batterie de secours. Et donc moi, en tant que MJ, je dis au cyborg à plusieurs moments du jeu, dans l'oreille bien sûr, un petit papier discret. Alors là, tu commences à...
Tu lui mets un papier dans l'oreille ?
Exactement, il le lit parce que c'est un cyborg. T'as rien suivi, Guilhem. Et oui, c'est des vrais cyborgs en fait, hein, pas des personnages. Et donc l'idée, c'est que je lui dis, bah voilà, là tu commences à avoir moins d'énergie, donc il faut que tu inverses des mots. Il faut que tu inverses des mots, il faut que tu utilises des mots qui sont absurdes, et on dit ça comme ça. Et donc c'est très rigolo de voir le personnage, enfin le joueur se dépatouiller avec ça, et à un moment complètement random, en pleine réunion avec tout le monde, sortir « Ouais, là c'est complètement tournevis. » Là il y a cette espèce de moment de silence, de malaise, où tout le monde le regarde en mode « Qu'est-ce qu'il sait ?» Hein,
est-ce que c'est moi, est-ce que c'est lui?
Alors, est-ce que c'est le personnage, est-ce que c'est le joueur, qu'est-ce qui se passe? Et donc quelqu'un a dit hein, quoi? Et donc après il a dit le vrai mot, et c'était marrant parce que ça encourage le joueur à aller improviser des choses qui sont complètement en dehors de la logique et de la zone de confort, mais parce qu'il y a un cadre scénaristique qui impose cet exercice pas forcément évident, quoi.
Mais ça, c'est quelque chose, moi, que j'apprécie beaucoup dans tout ce qui est GN, Murder, Freeform et compagnie. C'est justement l'improvisation qui te permet de jouer avec l'interprétation du joueur et du personnage. Et tu peux vraiment être dans des formes d'improvisation où tu sèmes le doute en face. Bon, alors des fois c'est agréable, des fois c'est complètement pas agréable, hein, mais dans un cadre comme ça, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Nous, on avait fait une murder party, pareil, il y a de nombreuses années, où, grosso modo, c'était une réunion de psychopathes en tout genre, sociopathes qui tuaient des gens, etc., serial killers, tout ce que vous voulez.
Charmant.
Voilà, que des gens bien. Et moi, j'étais une médium qui faisait des choses... Je sais plus exactement quelles étaient les choses horribles que je faisais. Bref, j'avais des pouvoirs parapsy. Et donc, c'était sur ma fiche de perso, comme ça. On m'expliquait comment je pouvais faire un rituel, etc. Et à la réunion de psychopathes, quoi, je me suis rendu compte qu'il y en avait un autre qui avait les mêmes pouvoirs que moi. Du coup, ben, on s'est assez vite rapprochés pour faire des rituels ensemble. On s'est retrouvés à faire un rituel dans ma salle de bain avec un recueil de poésie et avec, du coup, les orgas qui nous disaient quels sont les résultats du rituel, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, etc. Et à la fin de la murder, on s'est rendu compte qu'en fait, bah, tout ça, c'était dans nos têtes. Et qu'en fait, bah, non, on était dans le monde réel, Guylaine. Donc les gens, ça a pas de pouvoir, en fait, Guylaine. Et on s'est tellement retrouvés comme des cons et on était là, quoi ? Mais c'est pas vrai, on n'avait pas de pouvoir en fait. Et non, ça n'existait pas les pouvoirs dans ce jeu-là, c'est juste que c'était pour être sûr qu'on le joue comme des personnes qui en sont convaincues elles-mêmes. Et c'était un joli coup de la part de nos MJ, s'ils nous écoutent. ça avait vraiment très très bien marché, donc c'était pareil, une sorte de contrainte méta que tu glisses comme ça. Et qui va générer des impros qui vont vraiment enrichir la partie d'une certaine façon. Mais c'est des choses, oui, qu'on retrouve énormément dans le GN de manière générale.
Ouais, c'est vrai que c'est la capacité, enfin la demande d'improvisation en GN et en freeform est souvent plus importante, puisque on va avoir des interactions directes aussi par rapport à un contrat lié au monde réel. Ne serait-ce que quand en GN, des actions comme aller dormir, aller se coucher, ça peut se justifier scénaristiquement. Ça peut ne pas le faire aussi. En mode, je vais aller dormir dans une safe zone, mais si on dort en jeu, par exemple, ça peut être intéressant de faire des tours de garde. Enfin, truc qu'on improvise, on se dit, bah tiens, peut-être qu'il va y avoir des choses. On se construit un peu nos histoires. Un peu comme quand on joue aux cow-boys et aux indiens quand on est petit et qu'on se construit nos histoires et qu'on les improvise. C'est vrai que ce genre de jeu de rôle, ça permet en fait de recréer le cow-boy et les indiens en quelque sorte.
Oui, complètement. Mais en plus, le GN a ça d'exigeant qu'il n'y a pas vraiment de coupure. Quand tu joues et tu peux pas te mettre en pause, te dire non, là je fais pas l'interprétation de mon personnage. Mais non, quand t'es en GN, en freeform, en murder, tout ce que vous voulez, tu joues non-stop et tu dois tenir ton personnage, donc en ça c'est beaucoup plus exigeant d'un point de vue improvisation théâtrale, vraiment, tu dois incarner, tu dois interpréter ton personnage, parler par sa voix, et en ça c'est beaucoup plus exigeant et fatigant d'ailleurs. Souvent, il y a justement, comme il y a cette intensité d'interprétation émotionnelle, il y a besoin de mettre des safe words pour pouvoir marquer la limite, parce qu'il y a des fois où justement, si on joue trop avec cette ambiguïté, ça peut créer des situations assez malsaines. Enfin, moi j'ai un souvenir d'une situation où où je me dis, mais attends, c'est le personnage ou c'est le joueur qui essaye de me draguer là? Non, là, ça pue.
C'est un peu bizarre.
J'ai un peu l'impression qu'il profite du prétexte qu'il y a un personnage pour faire une drague un peu genre, non, arrête. Et du coup, dans ces cas-là, c'est quand même bien de savoir que je peux juste, non, non, je mets mes bras en croix, je me casse pisser un coup, tu me laisses tranquille. Ou juste aller se poser un peu si t'en as besoin, quoi.
Ouais. Bon, dernière chose à dire sur le sujet de l'improvisation?
Non, j'ai rien préparé et je sais pas improviser, donc j'ai rien à dire.
Ah, ça, c'est dommage. Bon, bah écoute, dans ce cas-là, je pense qu'on peut, conclure, messieurs, dames, et annoncer le sujet du prochain podcast.
Ou peut-être même des deux prochains podcasts, selon si on a beaucoup de choses à dire ou pas.
Waouh.
Bien, en cette période de primaire à droite, à gauche, au milieu, derrière, devant, et au vu des élections qui vont approcher, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal de parler jeux de rôle et politique.
Ouh.
Oh là là.
Ou du moins jeu et politique. Quelle est la place du jeu dans la politique? Quelle est la place de la politique dans le jeu? Et vers où va le monde? Et est-ce qu'on va se prendre une bombe atomique des États-Unis? Hop, pardon, excusez-moi. Non, c'était pas ça.
Non, mais je pense qu'effectivement, avec ce genre de sujet, on peut pas se tromper.
Je crois qu'il faut conclure là-dessus.
C'est l'embarras. Petit point, quand même.
Aucun Aurélien n'a été blessé pendant le recensement de ce podcast, mais croyez-moi, on en a envie.
Contre les oreilles de mes collègues, on en prend un coup. Juste pour vous signaler, on a eu plusieurs remarques, effectivement, comme quoi la qualité de nos enregistrements laissait un peu à désirer, puisqu'on avait un seul enregistreur. Donc, on a résolu le problème avec la formidable équipe, toute l'équipe de Proxy Jeux. Donc là, on a un matériel de meilleure qualité qui nous permet de pouvoir nous lâcher et donc sortir de nombreuses blagues de nombreux contenus de qualité en bonne condition. Donc on espère que vous apprécierez cette nouvelle qualité d'audition que nous allons essayer de maintenir lors des prochains podcasts. Voilà.
Et dans ce cas-là, à bientôt, et n'oubliez pas,
jouez bien.